19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, nouvelle émission des informés, ce soir 19h-20h, et ce soir c'est Bilal justement la présentation, mais pas d'inquiétude cher auditeur, Adil Farkan revient dès demain sur l'antenne de Beurre FM et reprendra sa place à la tête des informés. Ce soir dans cette émission, on va aborder quoi ? L'anniversaire des 40 ans de la marche pour l'égalité des droits, on rappelle une poignée de jeunes partaient de la cité phocéenne Marseille, dans l'indifférence générale, le groupe a entamé une longue marche jusqu'à Paris pour réclamer l'égalité des droits et dire stop aux crimes racistes qui se multipliaient alors dans l'Hexagone à travers le pays. On en parlera dans une première partie de cette émission avec Mehdi Dalaoui, réalisateur et écrivain et président de l'association Au nom de la mémoire, mais aussi avec Ahmed Kaki, comédien, dramaturge et président fondateur de l'association Les Oranges. Nous retrouverons par téléphone ces deux grands messieurs. On abordera le sujet sur ce racisme qui marche dans les rues de France. La gauche dénonce la descente de l'ultra-droite à Lyon avec des slogans « Islam hors d'Europe, immigration qui tue ». Meurtre de Thomas, fallait-il communiquer les prénoms ? C'est la question que l'on se pose et que l'on vous pose, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Face à une France qui se décompose et s'oppose, le président Emmanuel Macron est-il prêt pour un remaniement ? Le changement est-il en ligne de mire ? Réaction avec nos invités ce soir en plateau. D'ailleurs, enfin, avec vous, auditeurs de Beurre FM, on finira cette émission avec le conflit israélien israélo-palestinien prolongé grâce à un nouvel accord négocié par le Qatar et l'Égypte. La trêve entre le Hamas et Israël entre donc dans son cinquième jour. Quel avenir pour Gaza ? Pour en parler ce soir, je serai en compagnie d'Henri Pémot, élu municipal dans la commune de l'Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis dans le 93. Radouane Courac, journaliste et rédacteur en chef chez nos confrères d'Opinion Internationale. Rudy Casier-Matsika, conseiller municipal dans la commune de Saint-Germain-les-Arpajons dans l'Essonne, le 91. Et enfin, monsieur Thierry Paul Valette, candidat aux prochaines élections européennes. Mais pour commencer, place à la première partie de cette émission.
Ça s'est passé dans les informés.
On est en compagnie de monsieur Mehdi Lalaoui, réalisateur et écrivain et président de l'association Au nom de la mémoire. Bonsoir monsieur Lalaoui, comment bonsoir, ça va ?
Ça va bien, si ça peut aller bien avec...
Oui.
Qui se passe dans le monde.
Dans le monde. Eh oui. Mehdi Lalaoui, justement, avec nous ce soir. On va prendre cette dans une première partie de cette émission. On va rester avec vous, monsieur Lalaoui, justement, pour cette fameuse marche, ces 40 ans de, voilà, l'égalité des droits et dire, justement, stop aux crimes racistes. On en parle depuis nombre de jours, hein, à travers les médias, à travers aussi, les personnes que l'on peut retrouver dans la rue, entre amis, en famille. Vous, comment voyez-vous la chose aujourd'hui, 40 ans après, Mehdi Lalaoui ?
40 ans après, on a, comme chaque décennie, le devoir de rappeler l'événement. Pas pour faire histoire, mais pour rappeler que ce combat pour l'égalité et contre le racisme, il est toujours et plus que jamais aujourd'hui d'actualité. Nous, quand on a manifesté il y a 40 ans contre le racisme, à l'Assemblée nationale, il y avait zéro député d'extrême droite. 40 ans plus tard, nous sommes avec 88 députés d'extrême droite qui ne cachent pas leur xénophobie. Il y a 40 ans, la marche a été aussi un espoir, une promesse de fraternité. 40 ans plus tard, avec la loi Darmanin qui commence à être discutée à l'Assemblée nationale, en commission de l'Assemblée nationale aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, on voit une régression énorme sur l'histoire du vivre ensemble, l'histoire de la place qu'on fait aux communautés étrangères en France. Et pas seulement aux communautés étrangères, parce que nous, les anciens de 83, on est de nationalité française. Et malgré ça, 40 ans plus tard, aujourd'hui, la loi Darmanin, parce que c'est de elle qu'il s'agit, elle remet en cause non seulement le vivre ensemble, mais la dignité qui devrait nous être due comme tous les citoyens de ce pays.
Oui, justement, on en parlait avec ce qui se passe, le Front National, cette montée de l'extrême droite. Comment voyez-vous la chose aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est triste parce que c'est que de la répétition. Hein. D'abord, je voudrais dire que la marche, il y a 40 ans, elle ne s'est pas arrêtée à 83. il y a eu, après, durant ces quatre décennies, toute une série de campagnes, de mobilisation pour les droits et contre le racisme. On a eu des ministres de l'Intérieur qui, à chaque fois, attaquaient les conditions de vie et de dignité des étrangers et de leurs descendants en France. Les lois Passeroi-Pandreau, les lois Sarkozy, les lois Valls, les lois Cazeneuve, les lois Debré, à chaque fois, ça a été des attaques innommables hein, contre cette idée du vivre ensemble. Et aujourd'hui, avec cette loi Darmanin Macron, c'est pire que tout. C'est vraiment pire que tout. On revient vraiment en arrière du temps d'avant 81, des lois de Barbonnet-Tolérus, du temps de Giscard d'Estaing. On fait un grand pas en arrière de plus de 40 ans. C'est ça qui est terrible dans cette société de 2023. Et je dirais quelque chose, ces lois-là qu'on promeut, elles vont pas améliorer la vie de nos concitoyens. C'est purement électoraliste. Les politiques, ils continuent à courir après les idées du Front National de façon électoraliste. Aucune des dispositions qui sont proposées dans la loi Darmanin va donner du bonheur, va donner du pain, va donner de la dignité à nos concitoyens en France. Ils font ça parce qu'il y a des élections régulières et qu'il faut courir après le Front National. Ce faisant, ce gouvernement et cette loi Darmanin, 40 ans plus tard, 40 ans après la marche, fait la courte échelle à ce parti qui est toujours xénophobe.
La marche pour l'égalité et contre le racisme, il était comme nous, émigré. 40 ans après, sur Beurre FM.
On est toujours avec vous, monsieur Alalaoui. Pour terminer, justement, cette mémorable interview avec nous, ce soir sur cette antenne. Bon, vous êtes là, Mehdi, mais bon, on n'aura pas, malheureusement, monsieur Benkaki, hein, qui a eu un empêchement ce soir pour l'avoir avec vous sur l'antenne de Beurre FM. Mais pour terminer, c'est vrai, peut-être le vivre ensemble, non pas, c'est pas comme ça que je vois la chose, même si j'aimerais de tout cœur. C'est surtout... La vision que vous avez pour les années à venir, plus précisément et concrètement, vous, monsieur Alalaoui, pour cette société française.
La vision que j'ai, moi je suis un responsable associatif, donc on ne s'est pas arrêté à 83 et on ne va pas s'arrêter à 2023. Pour la société française, on va se battre pour la fraternité. Parce que il n'y a que ça qui nous sauvera, c'est la fraternité. Voilà, on va se battre pour le respect, on va se battre pour la dignité. Le chantier est énorme, hein, parce qu'il y a des régressions, pas seulement en France. Vous avez vu que dans toute l'Europe, depuis plusieurs années, il y a une montée des discours d'extrême droite et d'exclusion, hein, qui fait comme bouc émissaire les étrangers qui veulent venir, ou les gens ou leurs descendants qui sont déjà installés dans les pays européens. Donc, moi, ma note d'espoir, c'est de continuer le combat et d'essayer d'ouvrir les yeux et les cœurs, quoi. Essayer de convaincre nos concitoyens de toute origine que ce n'est pas les étrangers et leurs descendants qui sont responsables du mal-être, responsables des crises économiques, responsables des guerres. Nous sommes ici, n'en déplaise aux fâcheux et aux fachos. Et ma note d'espoir, c'est qu'on va continuer à être dans la rue, comme pour dimanche. Dimanche, on organise à Paris une grande manifestation, dimanche 3 décembre, qui va partir à 14h de Montparnasse, de la gare Montparnasse, parce que c'est à Montparnasse, il y a 40 ans, que nous sommes arrivés au bout de ce périple qui nous a conduit de Marseille à Paris.
Un grand merci, monsieur Alalaoui, avec nous sur l'antenne de Beurre FM, on le rappelle, réalisateur et écrivain et président de l'association Nom de la Mémoire. Grand merci à vous, monsieur.
De rien, au revoir.
C'était la marche pour l'égalité et contre le racisme, 40 ans après, sur Beurre FM.
Tant de choses à dire ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Les informés, 19h-20h en l'absence d'Adil Farkan, qu'on pourra retrouver dès demain. Ça c'est promis pour vous, hein, que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Ce soir, on est en compagnie de qui? Je tiens à le rappeler sur cette antenne. On est en compagnie justement d'Henri Pémeau, on le rappelle, élu municipal dans la commune de Lille-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Henri, comment allez-vous?
Ouais, très bien, merci et bonsoir à toutes et à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui.
Redouane Courac, journaliste et rédacteur en chef chez nos confrères de d'Opinion Internationale. Bonsoir Redouane.
Bonsoir Bilal, j'allais dire Adil.
Voilà, Adil, ben c'est vrai. Adil est là.
Hein. Bonsoir aux auditeurs.
J'essaye de porter justement son costume si bien. On est en compagnie là aussi de Rudy Casier-Matsika, conseiller municipal dans la commune de Saint-Germain-les-Arpajons, dans l'Essonne. Bonsoir Rudy, comment ça va?
Ben, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Bilal.
Et bonsoir aussi à monsieur Thierry Paul Valette, on le rappelle, candidat aux élections européennes.
Bonsoir Bilal, merci pour l'accueil. Ça va bien, mais j'aurais préféré venir dans des circonstances d'actualité un peu plus favorables, plus joviales, et moins dures, moins difficiles, moins racistes aussi.
Ouais, justement.
C'est terrible,
c'est terrible. C'est le mot qui revient.
C'est terrible.
Ouais, des racistes marchent dans nos rues. La gauche dénonce la descente de l'ultra-droite du côté de Lyon avec des slogans. On a pu s'en rendre compte, notamment sur les réseaux sociaux, mais à travers nombreuses vidéos, hein, ces derniers jours. Avec des slogans islam hors d'Europe, immigration qui tue. Qu'en pensez-vous? On a aussi une réaction concernant ce malheureux événement qui est survenu avec la mort du jeune Thomas. Fallait-il communiquer là aussi les prénoms? Ça fait tant jaser sur les réseaux sociaux, mais pas que, aussi à travers la classe politique ce soir. Comment voyez-vous la chose, Thierry Paul Valette?
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord, dès qu'il y a une enquête qui est en cours judiciaire, il ne devrait pas y avoir de source qui fuit, quoi qu'il arrive. Mais sauf qu'on est habitué maintenant, depuis plusieurs mois, quelques années, à qui est sur les plateaux télé, à la radio, dans le débat médiatique, sur les réseaux sociaux, les noms, les informations, les avocats qui viennent finalement, avant un procès, déjà faire le procès. Maintenant, c'est vrai qu'on est habitué à ce que les noms sortent. Et aujourd'hui, on n'a pas voulu les sortir. Et le fait qu'on n'ait pas voulu les sortir, ça a jeté de l'huile sur le feu parce qu'on a dit tout de suite, on va cacher des choses. On nous cache des choses. On nous cache des choses. Et d'un autre côté, ils ont été coincés aussi parce que s'ils avaient sorti les noms...
Ouais.
La mèche, elle aurait pris immédiatement. Ah ben ça y est, ce sont des noms à connotation. Et malheureusement, il y a une maladresse du procureur. Et bon, ça reste une maladresse qui a dit bah, ce sont des Français de papier. Enfin, je veux dire, Français de papier.
Bah, le procureur n'a pas dit ça.
De papier.
Le procureur n'a pas dit ça.
Ce que j'ai envie de dire, c'est
qu'on ne peut pas diffamer le procureur.
Il a dit ce sont des Français.
Ça, c'est votre interprétation.
Non, c'est pas l'interprétation. C'est pas l'interprétation. C'est comme ça que le bureau du procureur s'est prononcé.
J'étais à la conférence de presse.
Maintenant, ce qui est dramatique au lieu de ça, c'est que le jeune Thomas, il est mort. C'est dramatique. Il y a eu tout un débat. À juste titre. Mais ce qui a été fait derrière, comment c'était repris, et par des politiques, et par l'espace médiatique, et que maintenant on voit des marches avec des petits nazis qui sont dans la rue à vouloir faire la chasse aux Arabes, etc. Mais on va où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est irresponsable. Ouais. Alors, maintenant... Il faut se poser les bonnes questions. Oui. Ça traduit beaucoup de choses. Il y a le racisme, il y a cette montée-là. On stigmatise aussi des jeunes, et pas que. Ce qui s'est passé, ces jeunes, ce qu'ils ont fait à Thomas, c'est lâche, c'est inadmissible.
Bien sûr, on condamne fermement.
Mais c'est pas toute une population. Ouais. On n'attaque pas une population des origines non plus par rapport à ça.
Henri Pémeau. Oui, Rudy, avec Henri Pémeau, messieurs. Oui.
Bon, de toute façon, ce qu'il y a d'abord à dire là-dessus, c'est que ce qui est tragique, d'abord, c'est la mort d'un jeune homme de 16 ans, c'est malheureusement, ça. Qui est décédé suite à une bagarre dont on est encore en train d'identifier les mobiles. Mais ce qui est dommageable, malheureusement, encore une fois, c'est que ce sont des bandes, c'est de la délinquance, c'est voilà, relié à un univers, entre guillemets, un petit peu de... Voilà, lié au quartier, donc c'est le côté un peu de la racaille attitude, etc., qui pousse des jeunes à reproduire des comportements de leurs aînés et à tomber petit à petit dans une délinquance qui jette l'opprobre sur la plupart des habitants de quartiers, je crois, qui sont de 10 millions en France. Donc, ce qu'il y a dans les quartiers, 10 millions de délinquants, non. Mais il y a une petite partie de délinquants qui jette l'opprobre sur le reste et qui donne matière à toute une classe politique à instrumentaliser la question, donc de la délinquance sur des questions ethniques. Il y a Zemmour, je crois, qui en a parlé il y a pas longtemps. Encore une façon, encore de jeter l'opprobre sur des questions ethniques, alors que lui, est-ce qu'il est bien placé pour en parler, sachant qu'il a quand même été condamné pour incitation à la haine raciale. Donc moi, ce que je dénonce, c'est l'instrumentalisation politique de cette mort qui est tragique. En même temps, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Faut se dire quand même que à un moment donné, ça suffit. En fait, dans les quartiers, il y a cette jeunesse-là sur laquelle il faut taper dur. Ouais. Voilà, pour que cette délinquance s'arrête. Mais en même temps, il faut mettre en place un certain nombre de mesures pour toute cette jeunesse des quartiers qui n'est pas dans les bandes et qui sont beaucoup plus nombreux, une majorité silencieuse, et qui sont pris en otage à cause de ces jeunes et qui parfois ne les dénoncent pas trop parce que moi, j'ai grandi en quartier. Il y a des gens avec lesquels on connaît, on a grandi ensemble. On va pas les dénoncer des gens qu'on connaît. Mais pour autant, ils jettent quand même l'opprobre sur la plupart des jeunes de quartier. Et après, on évolue dans une société où le racisme existe. Et en plus, il est instrumentalisé sur des questions d'immigration qui cachent un petit peu. Alors, surtout pour l'extrême droite. Hein, parce que, je vais dire, c'est quoi? C'est Bastion Social, là, à Lyon, qui est une émanation du GUD qui avait été dissous. D'ailleurs, le GUD qui revient, le GUD qui est endogène du Front National, etc.
Qui n'a jamais réellement disparu, finalement.
Oui, qui a périclité, mais qui existe toujours dans son
On va marquer d'une courte pause. On revient rapidement avec les auditeurs de Beurre FM. C'est promis. À de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h20, toujours là en live jusqu'à 20h, chers auditrices et auditeurs, en ce mardi 28 novembre. Je rappelle, autour de la table pour m'accompagner jusqu'à 20h avant d'accueillir toute l'équipe de TAM Sport. On a Redouane Courac, journaliste et rédacteur en chef chez nos confrères d'Opinion Internationale. On rappelle aussi qu'on est en compagnie aussi de Henri Pémot, élu municipal dans la commune de Lille-Saint-Denis. Rudy Casier-Matsika, justement conseiller municipal dans la commune de Saint-Germain-les-Arpajons. Et on termine avec Thierry Paul Valette, candidat aux élections européennes du printemps prochain. On est avec toi justement, avec Redouane. On va revenir sur le sujet, le second sujet de cette émission.
Les informés, le face-à-face.
Il y a beaucoup de personnes pour le face-à-face et on écoute Redouane.
Donc, on est toujours sur le premier sujet.
C'est ça. Non, vraiment.
D'accord, ok, très bien. Donc, moi, je voulais simplement rappeler que la première des libertés aujourd'hui dans notre pays, c'est tout de même la sécurité. Et moi, je suis assez proche de ce que vient de déclarer Rudy.
Ouais.
Moi, je pense sincèrement que la délinquance dans notre société aujourd'hui est un poison, mais la délinquance n'a pas de visage, la délinquance n'a pas de nom, la délinquance peut provenir de n'importe où. Je n'aime pas le fait qu'on stigmatise une communauté en particulier. Simplement, il faut reconnaître que dans ce terrible drame de Crépole, et évidemment, on condamne le décès de Thomas, quelles qu'en soient les circonstances,
l'assassinat,
quelles qu'en soient les circonstances, il faut reconnaître que dans certains quartiers, aujourd'hui, dans certains territoires perdus de la République, il ne faut pas avoir peur de le dire, il y a des groupes qui perturbent la sécurité et l'ordre public. Ouais. Ce qui s'est passé à Crépole, en réalité, c'est pas un fait divers, ça arrive tous les jours. Un fait divers, ça arrive depuis des années, ça arrive tous les jours pour l'ultra-droite, pour ces groupes d'ultra-droite qui sont arrivés. La région lyonnaise est un peu un bastion de l'ultra-droite, du GUD.
Ouais, même c'est historique. On le voit jusque dans les clubs de foot.
C'est historique. Moi, je condamne avec la plus grande des fermetés cette attaque du GUD. Moi, je suis un fin pacifiste. Je suis contre toute forme de violence. Simplement, aujourd'hui, il y a une proposition qui revient sur la table. J'écoutais ce matin France Inter, je crois, il y avait le ministre de l'Intérieur. Le sujet des statistiques ethniques revient sur la table. Aujourd'hui, une vingtaine de pays dans le monde pratiquent les statistiques ethniques. Une statistique ethnique, c'est quoi? C'est de la sociologie, une statistique ethnique.
Ouais.
C'est d'analyser la société, de prendre des faits et de dire, il y a tant, on va parler crûment, il y a tant d'Arabes qui font ça, il y a tant d'Asiatiques qui font ça, il y a tant de Noirs qui font ça. Moi, je pense que ça permettrait de pointer de réelles problématiques
de façon péjorative
de la société.
Ou avantageuse.
Bien sûr. Parce que moi, j'ai envie de dire à ces gens, si ces gens n'ont rien à se reprocher, soyez favorables aux statistiques ethniques. Elles ne peuvent vous être que favorables si vous n'avez rien à vous reprocher.
On va revenir, monsieur Pémot.
Moi, au-delà des statistiques, je veux revenir sur la responsabilité des politiques et des médias, parce que je pense que c'est aussi important. En fait, en premier lieu, le travail qu'il y a à faire, c'est arrêter cette ultra-médiatisation de toutes les actualités qui peuvent arriver. On a l'impression qu'aujourd'hui, n'importe quelle actualité peut devenir en fait la source de la prochaine loi, la source du prochain concept. Pour moi, la politique, c'est d'abord avoir une grandeur et une hauteur de vue, et je pense que c'est ça, c'est très important.
Gouverner, à la fois pour c'est
les,
prévoir.
À la fois, ouais. À la fois, exactement. À la fois pour les médias et à la fois pour les politiques. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais revenir, alors, toujours dans la responsabilité des politiques,
ouais,
c'est sur la situation de notre beau pays quand même qui est en souffrance.
Ouais.
Même si c'est pas qu'en France, parce que on voit
on a les extrêmes,
les extrêmes droites quand on regarde les élections, que ce soit en Europe ou même dans le monde, en Amérique du Sud il y a pas très longtemps, on voit que l'extrême droite monte partout.
Ouais.
Et je pense que pour un pays qui est le pays des droits de l'homme, notre beau pays, la France, il faut quand même qu'on se réquestionne sur les sujets de, ben, tout d'abord notre devise, liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? La laïcité, être transparent, parce que on peut pas, je pense, toujours tortiller sur ces débats en étant toujours dans la défense de certains et revenir sur un racisme qui, on va le dire, est très localisé en ce moment.
Mais qui n'est pas systémique.
Ouais. Mais qui n'est pas systémique.
Selon vous, monsieur Correa.
Non, non, ouais. Pour moi, qui n'est pas systémique. Mais je pense que c'est le travail, le premier gros travail.
C'est important de le préciser. Qui n'est pas systémique.
Non, qui n'est pas systémique.
Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi préciser que pour beaucoup d'élus en France, leur business électoral, c'est de parler de racisme systémique. Je pense à la France Insoumise, notamment.
Bien sûr.
S'il n'y a plus de racisme systémique, enfin, eux, s'ils n'ont plus cet argument du racisme systémique, s'ils n'ont plus cet argument de dire aux gens, rebellez-vous, ils vous attaquent, vous êtes arabe, vous êtes noir, ces gens font 0%, c'est leur business électoral.
D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je mets dos à dos, même si différemment, gauche et extrême droite.
Bien sûr.
Ah, carrément.
En tous les cas, pour revenir quelques instants sur les statistiques,
monsieur Balatoué,
il
ne
faut surtout Thierry pas Paul. Mettre ça en place. C'est un outil dont les extrêmes vont se servir pour aller stigmatiser encore plus les gens issus des banlieues, des quartiers défavorisés, avec des noms à consonance et des visages à consonance.
Écoutez, dans la vingtaine
aujourd'hui, on doit lutter contre la délinquance.
Non, mais,
déjà, pour lutter contre,
alors,
pour monsieur, lutter contre
comment
la
délinquance. Comment fait-on pour lutter, justement?
Je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai écouté, j'ai le respect. Il faut montrer l'exemple.
On laisse terminer, monsieur Ballet.
Maintenant, c'est la délinquance. Mais pour lutter contre la délinquance, il faut aussi se poser les bonnes questions. Et avec Respol, avec ce qui s'est passé à Crépol, on ne s'est pas posé les questions. On n'a pas cherché à savoir d'où ça vient, pourquoi on en est arrivé là.
Retournons le problème.
Qu'est-ce qu'a fait Éric Zemmour? Il a dit il y a deux jours, ça a été un formidable écho médiatique.
Donc,
pour diffuser leur propre idée.
Retournons,
pour trouver des solutions. Maintenant, il y a de la précarité. La précarité, elle est partout. Elle est dans les quartiers. Elle est dans les territoires.
Mais ça fait un moment qu'elle est là.
Elle est dans les campagnes.
C'est pas une nouveauté.
On a Emmanuel Macron. Ouais,
c'est pas une nouveauté, monsieur.
Après, la précarité n'est pas la cause objective de la délinquance.
Il y a aussi cette responsabilité-là.
Mais
la précarité,
Reviens, monsieur Courac.
Retournons le problème. Ce monsieur dit que si demain on venait à faire des statistiques ethniques dans notre pays, ça pointerait des gens du doigt. Pour monsieur, il n'y a pas de problème de délinquance.
Moi, je pense qu'il faut revenir à la responsabilité politique, parce que comme on l'a dit, effectivement, les quartiers sur une question sociale, sur une question ethnique, tout ça c'est pas responsable, parce que c'est constitutif effectivement de ce morcellement et de cette polarisation qu'on ne veut pas, mais qui malheureusement à un moment donné, si les politiques doivent être amenés à la responsabilité, puisque c'est eux qui sont en capacité de construire le vivre ensemble, mais dans les quartiers aussi, à un moment donné, cette jeunesse là elle doit être en capacité aussi de se tourner vers la responsabilité de son propre cheminement dans la vie. Est-ce que l'objectif c'est d'être délinquant? tout le temps. Est-ce que l'objectif, c'est de, je sais pas, c'est de réussir au travers du stupéfiant, etc. À un moment donné, pour connaître les quartiers, il y a comme une bulle dans laquelle on est jusqu'à peut-être 25-26 ans quand la réalité nous rattrape et qui fait qu'on se croit, je sais pas, dans Scarface, dans je ne sais quel film, etc. À un moment donné, il faut casser cette dynamique-là parce que c'est du temps que cette jeunesse perd et c'est du temps aussi que qui est engagé au travers des médias et surtout de responsables politiques qui font leur chou et leur beurre sur ce type de médiatisation. Et à un moment donné, ça suffit. Il faut revenir à la responsabilité, à la fermeté et surtout travailler aussi à une bonne dose de patriotisme au sein de cette jeunesse. Parce que moi, j'entends parfois les jeunes qui me disent « Ouais, mais on nous aime pas, on n'est pas français, etc. » Mais ouais, vous n'avez pas besoin d'avoir l'assentiment de quelqu'un pour être français. Vous l'êtes même de culture, parce que quand vous retournez dans le pays d'origine de vos parents,
ouais, souvent, vous êtes originaire de France. T'es un français,
exactement. Donc ouais, à un moment donné, il faut accepter. Moi, c'est mon cas. J'accepte ouais, pleinement ma nationalité française. Je suis un patriote, c'est à 100%. Et quand je suis dans les communautés afro, etc., ouais, je me détache pas de cette origine qui est la mienne. Au contraire, il y a des ponts à construire en ce moment avec la France.
Monsieur Casier,
exactement.
Voilà.
Voilà.
Monsieur Pémon, oui,
patriotisme et pas d'amnésie par rapport aux racines.
Et peut-être Henri, on vous écoute sur les statistiques ethniques. Moi, je sais pas si je suis pour ou contre. Pour moi, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, vous regardez, par exemple, l'un des plus grands pays du monde, les États-Unis, qui fait déjà des statistiques ethniques. Regardez le taux de criminalité. Regardez tous les taux de ces actes malveillants. Je suis pas sûr qu'on soit à les jalouser sur le sujet. Bon. Ça, c'est le premier sujet.
Mais ça permet de remonter
au-delà de ça. Je pense que le deuxième sujet, il est sur deux branches, comme d'habitude. Le en même temps, même si je lui laisse son auteur. Même si je lui laisse son auteur. Pour moi, il y a évidemment le sujet social, éducation, patriotisme, on en a un peu parlé. Mais il y a aussi le sujet sécurité. Et en fait, toutes les fonctions régaliennes sur lesquelles il faut être beaucoup plus en alerte. Il faut évidemment beaucoup plus de budget, mais il faut aussi que la justice puisse sévir. Quand on a des actes comme ça, qui sont des actes délétères, il faut que la justice puisse être saisie rapidement et trancher rapidement fermement.
Et on peut constater le laxisme de la justice depuis un certain nombre d'années.
Voilà. Et moi, j'ai l'impression justement qu'elle est plus au rendez-vous.
Il y a une politisation de la justice dans ce pays qui fait que... Vous vous rappelez le mur des cons, qui était très bien, qui avait une politisation et qui montrait que chacun choisissait un peu son camp. Comment est-ce qu'on peut rendre la justice au nom du peuple, lorsqu'on est dans des instrumentalisations, etc. Non, ça, c'est pas possible. Et en plus, elle est mal budgétée, la justice.
On poursuit avec Monsieur Manette.
Ce qui est formidable aussi, faut quand même le rappeler, c'est une première. On a un ministre de la justice qui est quand même mis en examen, qui veut pas démissionner, qui est accroché à son poste comme une moule à son rocher, qui fait des bras de fer à l'Assemblée nationale. Il y a la justice à double vitesse.
Il y en a eu des ministres mis en examen, mais ils n'ont pas toujours été condamnés. Il faut le rappeler.
Ça aussi.
Voilà. Le problème, c'est que la justice, elle va mal. Il faut s'interroger. Il faut réformer la justice une bonne fois pour toutes. Maintenant, la problématique dans les banlieues, et pas que dans les banlieues, même dans
Monsieur
le 6e arrondissement à Paris, sur le stupéfiant, le trafic de drogue, on est dans une époque où la société, le législateur est en train de se positionner, s'interroger, est-ce qu'on légifère, oui ou non ? Est-ce qu'on dépénalise, oui ou non ? Ils ne savent pas. Il n'y a pas de position nette et tranchée. Et on voit bien qu'en matière de stupéfiants, la France, on est à ras les pâquerettes, on est dans une incapacité totale de tout maîtriser.
Si on dépénalise le cannabis, on va dépénaliser quoi ensuite ? La cocaïne, etc.
On ne peut pas ouvrir des boutiques de faux cannabis avec des feuilles pour attirer les jeunes et après dire non, c'est pas bien, c'est 10 ans de prison.
Permettez-moi de reprendre la parole du ministre de l'Intérieur.
Faut choisir.
Je vais être un peu grossier. La drogue, c'est de la merde. Le ministre de l'Intérieur l'avait dit, je le suis en plus d'accord avec Rudy. On va pas légaliser. Si on légalise le cannabis, demain, c'est quoi la prochaine étape ? Ce sera la cocaïne.
Moi, j'ai des enfants. J'ai 6 enfants. Vous croyez que j'ai envie de vivre dans un monde ?
C'est pas la même chose.
Mais c'est pareil. On légifère sur le cannabis, c'est-à-dire qu'on induit le fait qu'on lui donne une légitimité sur le plan juridique dans sa consommation et dans sa vente. Non, ça c'est pas. Je veux dire, même sur le plan philosophique, il y a rien de concret et d'intelligent à rendre une drogue enfin en tout cas à la rendre accessible à tout le monde. Ça n'a strictement aucun sens. Maintenant effectivement, il faut sur les statistiques ethniques, vraiment je reviens en une seule phrase, vous parliez des États-Unis tout à l'heure, c'est vrai que ça montre voilà que par exemple ce sont les noirs aux États-Unis qui sont les plus pauvres, qui sont les plus délinquants, mais par contre ça permet de faire un certain nombre d'études sociologiques qui démontrent d'où vient ce mal et comment est-ce qu'on faut lutter. Les statistiques ethniques, dès lors que ça a une utilité sur le plan scientifique, moi je dis pourquoi pas, mais encore une fois toujours,
alors vous dites c'est la responsabilité. On a plus le temps, on va revenir avec tous nos invités, ces problèmes concernant ce potentiel peut-être remaniement du gouvernement.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et donc, restez à l'écoute de Beurre FM. 19h39 en ce mardi soir. Ça passe très très vite. À la présentation de cette émission, ça fait sourire le réalisateur Solal, qu'on pourra retrouver tout au long de cette soirée. On rappelle, hein, 20h-21h, c'est l'avant-match avec Tam Sport. Sans oublier Vanessa. 21h-23h. Ce soir, c'est le 0-1-53-48-3000. Ah, Yajouba, justement, qui aimerait réagir. On va voir en premier. On rappelle les personnes qui m'accompagne dans cette émission qui est Les Informés. 19h-20h, on est en compagnie ce soir d'Henri Pémo, élu municipal dans la commune de Lille-Saint-Denis. On rappelle Radouane Kurak, journaliste et rédacteur en chef chez nos confrères d'Opinion Internationale. Rudy Kazimatsika, conseiller municipal dans la commune de Saint-Germain-les-Arpajons dans le 91, et aussi Thierry-Paul Valette, candidat aux élections européennes. Place justement, on revient sur Henri Pémo.
C'est parti. Les Informés, le face-à-face.
Avant le remaniement.
Oui, je voulais juste conclure sur la partie ethnique. Moi, je pense qu'il faut pas se tromper. Aujourd'hui, on est tellement dans une France en déconstruction et surtout en souffrance qu'il faut pas rentrer sur des sujets qui sont aussi clivants. Et la première des choses, parce que je veux vraiment le répéter, c'est important aussi pour les auditeurs.
Oui.
Le sujet, avant d'être ethnique, il est économique et social. Et donc ça, c'est important de ne pas se tromper.
Ouais, il faut pas se tromper justement. Ouais. Et peut-être ça va donner aussi, je sais pas, quelques idées à notre cher et fameux président, qui n'est autre que Emmanuel Macron. Eh oui, est-il prêt pour un remaniement? En tout cas, c'est les bruits qui courent dans la classe politique. Justement, le changement peut-être en ligne de mire. Redouane qui me regarde, qui m'interpelle. Alors, on va le laisser. Alors, vas-y.
Il faut se poser une question. Remanier. Ouais, mais pourquoi remanier? En réalité, quand on fait un remaniement, ouais, c'est qu'on essaie de passer. C'est un acte remanié. Soit on essaie de passer une crise comme il y a pu avoir par le passé, soit c'est suite à une défaite, à des élections, soit c'est pour passer un cap, pour afficher un changement de politique certain et limpide.
Ouais.
Or, aujourd'hui, à 6 mois des élections européennes, je ne vois pas bien l'intérêt du président de la République de remanier. En plus, il y a un réel risque pour le gouvernement.
Alors,
le gouvernement, c'est ce qu'il peut gagner. Il peut gagner des ministres, mais il ne mesure pas ce qu'il perd. Parce que soit le gouvernement penche un peu trop à droite et risque de perdre des soutiens dans sa majorité. Sacha Houillet, président de la commission des lois, est en train de tanguer avec un groupe de macronistes. Soit il penche trop à gauche et il perd ses soutiens, notamment chez les Républicains. Il a besoin des Républicains pour faire pencher la balance sur certains textes. Quand on a une majorité relative, on ne remanie pas à tout va.
Ouais, intéressant, vraiment.
Ouais, c'est un point de vue. Bon, faut savoir que là,
Monsieur Valette.
Macron, son remaniement, ça va être un remaniement de croque-mort, mais ça, on est habitué.
Wow.
Finalement, et pourquoi je dis ça? Parce que finalement, à quoi va servir le remaniement? À rien du tout. Sur la politique nationale, pour l'instant, il est concentré sur l'Ukraine, il est concentré sur le conflit israélo-palestinien.
Ouais.
C'est
on va en parler.
Et par rapport à la politique nationale, depuis la réforme des retraites, il n'y a plus rien du tout. Il veut réformer, il se veut réformateur, il doit agir. Il va y avoir le tempo des élections européennes en 2024. La liste de Madame Loiseau, elle est complètement.
Selon les informations, Nathalie Loiseau ne sera pas tête de liste aux européennes.
Oui, elle ne peut plus. Elle le voulait, mais elle ne peut plus. Et de toute façon, elle est complètement derrière. Emmanuel Macron, il doit reprendre les choses en main. Il ne va pas pouvoir s'empêcher de reprendre les choses en main. Et justement, remanier le gouvernement, ça va être montrer que je suis dans l'action, je suis en train d'agir, et j'aurai une légitimité pour aller, parce qu'il va faire campagne pour les européennes.
Mais
je le dis, c'est un remaniement de croque-mort qui se met en place.
Européenne, je sais aujourd'hui, sur ce sujet, pour Beurre FM, je vais sortir sur Opinion Internationale, mais c'est une exclue. Emmanuel Macron a proposé une nouvelle fois aujourd'hui à Bruno Le Maire de prendre la tête de liste aux élections européennes. Bruno Le Maire a une nouvelle fois refusé.
C'est
la tête
piège.
De liste ne sera pas Bruno Le Maire aux élections européennes.
Il a des ambitions pour le FMI.
Il a des ambitions pour autre chose, mais pas pour.
C'est une exclue pour Beurre FM.
C'est évident que Bruno Le Maire n'ira pas. Maintenant, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'effectivement, C'est un faux remaniement, et de toute façon, on est habitué, c'est des remaniements de forme, mais pas de fond, c'est des remaniements, en fait, qui ne sont pas de véritables remaniements, mais après, en l'occurrence, est-ce que c'est opportun pour Emmanuel Macron de le faire? Je pense que vu la position du parti qui est un peu moribond, bon, il y a des affaires qui sortent, etc., il y a un rythme de réforme qui est assez lent, on sort aussi de mouvements sociaux importants au début d'année avec la réforme des retraites, il y a une fatigue, il y a cette inflation qui est en train, soi-disant, d'être plus ou moins réduite, mais qui a quand même fatigué la population. Donc se présenter à l'élection européenne à ce moment précis, c'est effectivement dangereux pour Emmanuel Macron. Donc on est encore sur des changements sporadiques, parce que de toute façon, à la limite que Nathalie Loiseau n'y aille pas, je veux dire que c'est bénéfique pour eux, parce qu'elle n'est pas particulièrement charismatique. On voit bien que le banc de touche est assez vide, en fait, parce que c'est un gouvernement qui est tout... Enfin, une majorité qui est tout le temps en train de rechercher quelqu'un qui peut permettre de joindre, enfin de trouver l'assentiment à peu près de tous les Français, etc. Et ils trouvent jamais la bonne formule, parce que ce gouvernement est pour moi beaucoup plus dans la représentation que dans le fond. Et à un moment donné, ça va se voir. Je vous le dis pas uniquement parce que je suis quelqu'un de droite, mais à mon avis, je veux dire, c'est visible, quoi. Et c'est
Emmanuel Macron est peut-être un peu de droite.
On est en même temps, comme d'habitude. Mais enfin, tout d'abord, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Ce qui ravive ce potentiel remaniement, c'est potentiellement la condamnation de ministres qui pourrait arriver. Ouais. Ça, c'est la première chose. Parce que d'un point de vue politique, vous l'avez tous dit. Pour l'instant, ils ne sont pas condamnés. Donc laissons la justice faire son travail.
En examen, voilà. Et comme avait dit Macron en 2017, si un ministre est mis en examen, il démissionnera. Il ne démissionne pas.
Mais au-delà de ça, là où je veux en venir. C'est qu'il n'y a aucun fond politique qui appelle au remaniement. Et comme le disait Rudy, le seul boost que ça peut donner, c'est pour donner soit un coup à bâbord, soit un coup à tribord. Et la réalité, cette impulsion, c'est qu'en fait, c'est le dernier coup de chance pour dire, est-ce qu'on va vers la gauche ou est-ce qu'on va vers la droite? Je pense qu'il y a un côté.
Les électeurs savent où est la vraie droite, la droite républicaine, etc. Et effectivement, elle n'est pas du côté d'Emmanuel Macron.
Peut-être, Rudy, mais peut-être, c'est peut-être aussi un coup de poker pour la droite de prendre cette majorité enfin. En vue aussi d'entrevoir ce qui se passe en 2027.
Moi, je suis d'accord avec
monsieur. Monsieur Manette, pour terminer.
Oui, je suis complètement d'accord avec monsieur Pemont. Simplement, Emmanuel Macron veut de cette manière-là aussi prendre le contre-pied de l'élection européenne, parce que lui, il va batailler campagne. Il ne peut pas s'empêcher. Il faut qu'il se mêle de tout. Il faut qu'il soit au four, au fourneau, au moulin. Il faut qu'il soit partout. Bon. C'est dans son ADN.
Il peut pas partout en ce moment.
Il n'a pas cette humilité de savoir rester à sa place et de donner un cap.
C'est quoi sa place?
Sa place, c'est président, c'est présidé.
C'est le président de tous les Français.
C'est le président de la République française.
On termine avec le conflit israélo-palestinien prolongé grâce à un nouvel accord, je tiens à le rappeler, négocié par le Qatar et aussi l'Égypte. La trêve entre le Hamas et Israël entre donc dans son cinquième jour. Quel avenir tout de même pour Gaza?
Écoutez, moi, j'ai le sentiment que depuis quelques jours, on commence à sortir de l'émotionnel. C'est très important. Oui. Car là, de toute manière, il n'y avait aucune issue tant que les observateurs ne sortaient pas de l'émotionnel. Les gens réagissaient bien plus avec de l'émotionnel qu'avec autre chose. Cette issue, elle laisse présager, je l'espère, que du positif. Nous, on condamne avec la plus grande des fermetés ce qui se passe au Proche-Orient. Moi, j'ai la même position depuis le début. Le Hamas est une organisation terroriste et ça ne profite ni aux Palestiniens ni aux Israéliens. Donc cette initiative de l'Égypte et du Qatar est à saluer.
Ouais. Mais monsieur Kadhi.
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que enfin, il y a une libération des otages, graduelle, progressive. Ça, c'est déjà rassurant.
L'aide humanitaire n'entre au compte-gouttes aussi, il faut le rappeler.
Tout à fait. Je crois une dizaine de cars qui rentrent, malheureusement, alors que en général, c'est 1000 par jour. Mais ce qui est dommageable, par contre, c'est que les otages français, malheureusement, ne sont toujours pas libérés. Et globalement, même les otages occidentaux.
Il y a eu trois libérés hier, il y a eu
trois libérés
hier soir.
Dans
deux enfants.
C'est ça. Tout récemment.
C'est modeste.
C'est modeste, ça sort au compte-goutte. Donc, tant mieux. Et surtout, ce qui, faut quand même pas se leurrer. Cette position que le Qatar adopte, c'est quand même pour essayer de prendre une forme d'ascendant dans la discussion diplomatique avec l'Occident et évidemment israélite. Et quelque part, c'est pour redorer aussi le blason du Hamas, qui, on l'avait même vu dans la libération de certains otages, donnait l'impression d'avoir
d'avoir pris soin
d'elle, etc. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, c'est une organisation terroriste, ça il faut pas s'y tromper. Et il y a un intérêt pour eux à essayer de ressortir par la grande porte, parce qu'ils voient bien qu'ils sont assaillis et qu'ils peuvent totalement disparaître, malheureusement, en entraînant avec eux les populations gazaouis qui trinquent et qui meurent sous les bombes à cause du machiavélisme de leurs dirigeants, en l'occurrence ceux du Hamas.
On va écouter Henri.
De la manque d'efficacité du gouvernement cisjordanien aussi.
Oui, exactement. Henri. Moi, de la même façon que tout le monde, je me réjouis de ce cessez-le-feu et de cette trêve qui, j'espère, sera la plus longue possible. Après, je pense là où il faut pas se tromper, c'est que, à mon sens, il y a au moins deux conditions qui sont importantes.
Alors,
la première, c'est que il y ait une gouvernance différente politiquement côté Gaza. Donc, le Hamas, organisation terroriste, ne peut pas négocier. C'est non négociable. Et ça, c'est la première chose.
Et on ne négocie pas avec les terroristes.
Exactement. Ouais. Dans le même temps.
Alors,
je pense que parce qu'on on l'a vu aussi dans les médias. Je pense qu'il faut pas que l'objectif d'Israël soit d'expulser tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Parce que à ces conditions là, on sait que ce sera un statu quo et malheureusement la reprise d'hostilité.
Monsieur Valette, pour terminer avec Redouane.
Il y a des otages qui sont libérés au compte-goutte, de manière sordide, avec des échanges. On sépare des familles. On fait croire qu'on porte des otages, on prend soin d'eux. Alors qu'il y a le témoignage du petit Ethan, où finalement il est en train de révéler un peu les tortures psychologiques et les bousculades physiques qu'il a pu subir un enfant de 12 ans. Maintenant, faut pas se leurrer. Le processus de libération des otages, il va arriver à terme à un moment donné. Il va arriver à terme.
Ouais.
Donc il faut déjà aller au-delà de ça. Et qu'est-ce qui va se passer au-delà de ça? Il va falloir commencer à se projeter pour le processus de paix. Mais le processus de paix, comment on va faire pour panser les plaies qui ne vont pas être encore recouvertes là? Elles vont être encore saignantes, les plaies. Les Palestiniens qui sont en train de mourir sous les bombes israéliennes d'un côté. De l'autre côté, il y a toujours une droite israélienne de Benjamin Netanyahou qui est en train de faire du mal, qui est en train de faire du tort.
Une extrême droite.
Il va falloir, et pour entrer dans le processus de paix, il va falloir se préoccuper aussi des territoires qui ont été en Cisjordanie colonisés.
Pour conclure, je poserai une question de conclusion. En réalité, il faut se questionner sur que vient faire le Qatar dans ces accords. N'oublions pas qu'il y a les accords d'Abraham, qui étaient des accords qui devaient signifier la paix entre Israël, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, que le Qatar n'a pas de très bonne relation avec les Émirats Arabes Unis. Espérons que ce ne soit pas simplement par arrière-pensée politique et uniquement.
Un grand merci
à Redouane Correct de m'avoir accompagné, sans oublier monsieur Thierry Paul Valette, mais aussi Henri Pémont, et sans oublier là aussi Rudy Kazimatsika de m'avoir accompagné jusqu'à 20h à la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. On retrouvera dès demain les informés avec Adil Farkan, qui reprendra les commandes de cette fameuse émission phare sur l'antenne de Beurre FM. La suite avec monsieur Thierriez, invité ce soir de marque de l'équipe de Tam Sport, sans oublier Vanessa, 21h, 23h, bye bye.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.